Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Édouard Rosset.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Point de mire. Nous nous intéressons aujourd'hui à un prix remis récemment par le Nouveau Cercle de l'Union, prix 2004 décerné notamment à Arnaud Tessier pour sa biographie de Lyautey aux éditions Perrin. Parlons-en avec le président du Nouveau Cercle de l'Union, Monsieur Gabriel De Breuil de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Gabriel De Breuil, bonjour.
Bonjour.
Alors, de nombreux ouvrages ont été écrits sur le célèbre maréchal. Je serais tenté de dire à propos du livre d'Arnaud Tessier, encore une biographie de Lyautey.
Oui, c'est la première réaction. En effet, y a-t-il encore des livres à écrire sur Lyautey après les vagues successives des livres? Mais il faut prendre ça comme révélateur de la personnalité de Lyautey. Tout d'abord, tous les témoins de sa vie ont voulu témoigner. Ils l'ont fait tous avec enthousiasme, tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont souvent aimé comme chef. Ils lui vouaient une admiration et une amitié très grande. Ont écrit leurs souvenirs. Ça, c'était quelquefois, souvent même avant sa mort. Et puis, il y a eu la génération des témoins qui avaient vu le sillage, qui ont aussi témoigné. Et puis, il y a eu les livres d'histoire. Entre-temps, il y avait un très beau livre qui n'a pas été dépassé du point de vue de la pénétration psychologique, qui est celui de Mauroy, du vivant de Lyautey. Et puis, donc, il y a eu les livres d'histoire, bien après. Alors maintenant, on en est à la quatrième génération, au moins. On sait à peu près tout. Il n'y a pas de découverte à proprement parler.
Il n'y a pas de scoop.
Du point de vue historique. Il y a quelques énigmes, quelques mystères dans la vie de Lyautey. A-t-il vraiment eu la tentation du suicide? Oui, mais quand on pense qu'il l'a eu alors qu'il était général à 3 étoiles et qu'il avait déjà occupé les plus grands postes et qu'il était en pleine célébrité, qu'est-ce que cela veut dire exactement?
On va y revenir d'ailleurs, parce que c'est le caractère dual du personnage.
C'est ça.
En tout cas, ce livre d'Arnaud Tessier, Monsieur De Breuil, c'est une biographie, certes, mais plus que cela. Et lors de la remise du prix Nouveau Cercle de l'Union à l'auteur, vous n'avez pas hésité à parler de psychanalyse.
Oui. Parce que si le livre n'apporte pas grand-chose du point de vue de la chronologie, du déroulement, de la carrière, il est très éclairant du point de vue de la psychologie de Lyautey. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que le personnage est tout à fait fascinant. Car on est frappé de voir que ce personnage présente deux aspects bien différents. Un aspect extérieur, qu'on pourrait dire resplendissant. Un magnifique personnage, beau comme tout, très bon cavalier, beau militaire, portant l'uniforme comme personne, entraînant, spirituel, brillant, lettré, mondain à certains moments. Enfin, un personnage à qui tout réussit, et qui a occupé les plus hauts postes militaires, et qui a été membre de l'Académie française. Donc, une très éclatante réussite. Et puis, constamment, une faiblesse interne. Moi, je vais plus loin que faiblesse. J'utilise le mot de fêlure. C'est-à-dire une faiblesse, de son caractère, de sa psychologie, qui fait que il n'est jamais satisfait de lui-même. Il n'est pas satisfait du tout de son époque, il la déteste en réalité. Il a vécu évidemment sous la Troisième République et il est mort en 1934. Il a vécu la guerre de 14, c'est pas très enthousiasmant comme période. Mais enfin, il n'aime pas son époque, il la trouve mesquine, décadente, désordonnée, vulgaire. Et il est surtout déçu de l'effet qu'il fait, curieusement. Il est déçu de lui-même. Il s'en veut de ne pas avoir un destin plus éclatant. Il est insatisfait. Alors, c'est une c'est sa nature. Ce n'est pas la cyclothymie que l'on connaît bien chez un grand nombre de personnages, qui consiste à passer successivement d'un état d'excitation à un état de dépression.
C'est un personnage, alors vous parliez de fêlure, monsieur Le Breuil, on peut dire un personnage fracturé quelque part,
il y a une fracture.
Et il y a plusieurs exemples d'ailleurs dans sa vie, parler vraiment de fracture.
Absolument, et cette fracture existe tout le temps, c'est-à-dire qu'il est en même temps un personnage éclatant à l'extérieur et atteint, blessé à l'intérieur.
Alors il ne se remettra jamais par exemple de la destruction de sa propriété par les Allemands pendant la guerre de 14-18.
Alors il faut dire qu'il a un destin en effet douloureux. Non seulement, c'est ça, il y avait la propriété de famille dans laquelle il avait mis toutes ses archives. Et soucieux de sa, de son image, de sa figure, de sa statue, c'est quelqu'un qui a très méticuleusement conservé toutes ses archives, tous ses papiers, constamment. Voilà, c'est un trait de caractère, n'est-ce pas ? On peut peut-être dire c'est un manque d'assurance, mais en même
toujours
temps...
Toujours se rattacher à quelque chose.
Se rattacher à quelque chose, laisser, être sûr qu'on laissera une trace, ou plutôt ne pas être sûr que la trace qu'on voudrait laisser ne soit pas celle...
Soit mauvaise.
Alors, donc, il a méthodiquement conservé toutes ses archives, qu'il avait entreposées dans tous ses postes, dans sa propriété de Lorraine. Et les Allemands, connaissant très bien le rôle qu'il avait joué au Maroc, contrant les visées allemandes sur le Maroc avant la guerre de 14...
Entre 1912 et 1925,
oui, c'est ça.
Marocaines.
Oui. C'est ça. L'armée allemande a donné l'ordre de détruire la propriété de Lyautey, de la détruire, c'est-à-dire d'envoyer une équipe, la faire exploser et détruire complètement. Il n'y reste plus pierre sur pierre. Et il en a été meurtri toute sa vie. Il a reconstitué ses archives. Il a consacré beaucoup de temps à reconstituer ses archives, même celles détruites. Et puis alors, il a conservé tout le reste, tout ce qui a suivi, avec beaucoup de minutie. Il en a fait don, plutôt son neveu, en a fait don aux archives privées, des archives de France, où elles sont toutes conservées, y compris des pièces intimes, des carnets. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ces archives ont été rangées par lui, puis par son neveu. Et probablement, comme souvent, elles ont été un peu épurées. Mais elles contiennent des pièces qu'on ne s'attendrait pas à trouver là. Ont-elles été laissées exprès pour laisser une trace, ou ont-elles échappé à une épuration? Ça, c'est une des énigmes.
Alors, la fêlure, la fracture, cette propriété dont vous parliez un instant, et puis justement le Maroc que vous évoquiez également. Alors là, c'est un autre moment symptomatique d'ailleurs de cette fracture, puisqu'il demande à ce que son tombeau soit installé, enfin repose au Maroc, et en fait le tombeau reviendra en France.
Oui, ça, c'est l'autre grande fracture. Le Maroc... double ou triple ou quadruple facture. Il a adoré le Maroc, après Madagascar, après l'Algérie. Mais il a adoré le Maroc où il a eu le plein exercice de ses capacités, de ses talents, où il a eu un rôle de chef d'État. Il a été chef d'État du Maroc, ce qui le passionnait. Et il l'a fait de manière merveilleuse. Mais en même temps, son ambition s'est trouvée limitée au Maroc. Et il a été, son protectorat a cessé brusquement à la suite de manœuvres, disons, politiciennes, qu'ils ont amené à ce qu'il soit remplacé assez brutalement, en 1924. Il en a conçu une assez grande amertume, même une très grande amertume. C'est une première fracture du Maroc. La seconde, en effet, c'est qu'il s'était construit une statue marocaine dont un des éléments était son tombeau, qu'il avait dessiné, il avait arrêté le dessin, l'emplacement à Rabat, dans une situation tout à fait emblématique, les inscriptions arrêtées de sa main, très emblématiques aussi, et à sa mort, ses restes ont été transférés à Rabat, dans une cérémonie solennelle, et ils y sont restés pendant une vingtaine d'années. Et puis, accédant à l'indépendance, dans une situation pas trop conflictuelle, n'est-ce pas ? Un peu conflictuelle en 1954-55, mais enfin, pas tellement. Et très vite, les choses se sont remises. Mais le gouvernement marocain, devenu indépendant, a souhaité, et l'a exprimé d'ailleurs avec diplomatie, a souhaité que les restes de l'hôtel ne figurent pas dans un emplacement central à Rabat et qu'ils soient ramenés en France. Et donc, les restes de Lyautey ont été transférés solennellement aux Invalides, où ils sont encore, et le mausolée, enfin le monument, a disparu. Alors, c'est aussi une fracture, n'est-ce pas ?
Mais il n'était plus là pour la voir, celle-là.
Il n'était plus là pour
le voir. Et pour la vivre.
Oui, il n'était plus là pour le voir. Et il y a une troisième fracture que j'ai évoquée tout à l'heure, mais qui est finalement la plus importante, c'est un de ses derniers mots. Sur son lit de mort, cédant à la dépression, le maréchal dit « Finalement, j'ai raté ma vie. » Alors, l'officier qui est auprès de lui proteste en lui disant « Mais, monsieur le maréchal, et le Maroc ?» Et Lyautey répond « Le Maroc n'a été qu'une province de mon rêve. » Et ça montre bien que il rêvait autre chose. Mmh. Et puis, il rêvait autre chose. Et cela veut dire que il était un personnage profondément insatisfait. Il a eu le plus beau rôle possible comme résident général au Maroc, et ça ne le satisfaisait pas. Et alors, après avoir écrit son livre, l'auteur Arnaud Tessier, qui a écrit un très beau livre, très pénétrant psychologiquement, a découvert un document que je trouve, moi, tout à fait intéressant pour la figure historique de Lyautey. Ce sont des notes d'André Mauroy, prises dans une conversation avec Lyautey, parce qu'André Mauroy a écrit la biographie de Lyautey, du vivant de Lyautey. Et ces notes qu'il a découvertes comme ça, dont Mauroy ne s'est pas vraiment servi dans la biographie parce qu'elles sont trop révélatrices, trop intimes, ce sont les suivantes. C'est de la main de Mauroy. Et il transcrit des phrases que lui aurait dites Lyautey. « Mon petit Mauroy, vous avez dû vous demander pourquoi je ne vous ai pas encouragé à écrire ce livre. Je vais vous le dire, c'est que je suis dégoûté de moi. Je suis las de la vie, las de moi-même surtout. » Et l'idée de me raconter me fait horreur. Maintenant, je me survis. Et il ajoute, évidemment, on m'a jeté des reniures. Commissariat d'une exposition coloniale, c'est une situation ridicule. Président des scouts. Si je me sentais vieux, gâteux, tout serait très bien. Mais je me sens plein de force. C'était vers 1930, pas 4 ans avant sa mort. Jamais, je n'ai jamais été mieux, parfaitement en forme. Je me sens capable de gouverner un pays. On me confierait la France demain que j'accepterais sans hésiter. Alors vous comprenez, c'est dur. Ça, c'est un document absolument révélateur. Ça veut dire qu'à la fin de sa vie, Lyautey se considérait comme un recours, qu'il n'était pas tellement avancé en âge, que le général de Gaulle a été rappelé au pouvoir aussi à la fin de sa vie, et que, de manière prémonitoire, Lyautey avait dans l'idée qu'il était un recours et que dans la décadence du régime politique de la Troisième République à sa fin, on pouvait faire appel à lui et qu'il aurait pu gouverner la France.
L'invité de l'émission Point de Mire sur Canal Académie aujourd'hui, Monsieur Gabriel De Breuil de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Gabriel De Breuil, également président du Nouveau Cercle de l'Union, qui a donc décerné l'un de ses prix, prix 2004, à Arnaud Tessier pour cette biographie de Lyautey aux éditions Perrin. Thank you. Monsieur De Breuil, politique, culture, littérature, on trouve vraiment tous les aspects dans cette biographie de Tessier. Alors, religion et mœurs, et vous le dites non sans une pointe d'humour d'ailleurs, Lyautey, catholique non pratiquant, amateur de belles femmes, et là encore non pratiquant.
Oui, c'est un jeu de mots. Catholique, oui. Monarchiste d'ailleurs, mais servant la France, détestant la République, mais servant la République et la France, et catholique non pratiquant. C'était ça montre la dissociation de sa personnalité. Il ne s'est jamais éloigné de la religion catholique, mais il ne la pratiquait pas. Et alors, amateur de belles femmes, oui, il a eu des succès, il a eu, mais non pratiquant, je n'insisterai pas. D'ailleurs, c'est une des énigmes. On ne peut pas citer de nom d'attachement que Lyautey aurait eu ni masculin ni féminin d'ailleurs. Et donc, il y a simplement une image indirecte, des rumeurs qui ont été transportées, mais l'auteur lui-même, Tessier, qui analyse si bien la personnalité de Lyautey, voit bien que il a eu un destin inachevé, et même une personnalité inaccomplie, déchirée, mais sans se prononcer vraiment sur ses mœurs, il faut prendre le personnage tel qu'il a été, avec sa grandeur. Tous ceux qui l'ont approché ont eu une admiration extraordinaire pour lui. Tous ont été sensibles à la beauté de son personnage. Et probablement tous nieraient le côté décalé et affaibli que la biographie d'Arnaud Tessier révèle, et que j'adopte pour ma part. Je crois qu'elle est vraie. Mais ses proches, j'en ai rencontré plusieurs, Vladimir d'Ormesson, Guillaume de Tarde, le général du Rozoy, Gaston Palevski, je les ai rencontrés. Le propre des collaborateurs de Lyautey, c'est qu'ils ne peuvent pas parler d'autre chose que de Lyautey. Toujours, Vladimir d'Ormesson parlait de Lyautey, constamment.
Personnage fascinant.
Fascinant. Et tous l'ont admiré follement, et tous n'ont jamais considéré que c'était un personnage fragile.
Cet aspect psychologique, c'est vraiment une première en termes de biographie, celle de Tessier.
C'est un style de biographie qui vient après les autres.
Complémentaire,
qui suppose beaucoup de réflexion, n'est-ce pas, de travail intérieur, et qui est très bien mené. Très bien rédigée d'ailleurs, très bien écrite, ce qui ne gâte rien. Mais c'est une post-biographie, si je peux me permettre cette expression.
Gabriel De Breuil, cette personnalité, ce destin de Lyautey, est-ce que l'on peut faire des comparaisons avec d'autres illustres personnages qui ont traversé les siècles?
Oui, certainement, on peut.
Alors lesquels?
Il faut le faire, parce que c'est une manière de marquer sa profondeur et sa vraie nature. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est destin inachevé. Certes, beaucoup de personnages ont eu un destin inachevé. Et alors, si on pense à son destin littéraire, eh bien, il a un petit destin littéraire. Il a écrit plusieurs livres. Son élection à l'Académie française n'était pas uniquement une élection de maréchal. Il a été un écrivain, plus que Pétain, par exemple. C'est un destin inachevé parce qu'il aurait pu écrire d'autres livres. Et qu'il a eu l'élégance, lorsqu'il a été reçu à l'Académie française, de dire qu'il avait été élu en 1913, c'est-à-dire avant tous les autres, avant les autres maréchaux, avant la Grande Guerre, et qu'il n'a été reçu qu'en 1920, je crois, après les autres, après Foch et après Pétain. Et dans son discours, il a eu l'élégance de dire « Je trouve ça naturel et normal, heureusement. J'ai laissé passer les grands chefs militaires et je suis reçu après eux. » Alors, destin inachevé. Politique, destin inachevé, Lamartine. Un autre destin inachevé, raté même. Et il y en a bien d'autres, d'ailleurs. Mais du point de vue de la fracture, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Moi, je me suis hasardé à évoquer trois personnages qui me paraissent, dans l'histoire de France, présenter la même caractéristique.
Jeanne d'Arc.
Ces exemples sont un peu étonnants. Oui, moi, je trouve Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc, d'abord, elle est fascinante. Quiconque a approcher la personnalité, la vie de Jeanne d'Arc est fasciné. Généralement, il passe plusieurs années et n'est pas le même après qu'avant. C'est une personne qui vous imprègne de manière puissante.
Elle est sûre de sa mission, mais elle est sûre aussi d'une autre chose, c'est qu'elle est abandonnée de tous.
Et oui.
Et c'est un sentiment.
Elle a le sentiment d'être abandonnée de tous, de ne pas être reconnue, que tout le monde lui met des bâtons dans les roues, c'est vrai d'ailleurs, que tout le monde l'abandonne, c'est vrai aussi, et que, par exemple, lorsqu'elle est prisonnière des Bourguignons à Compiègne, eh bien, il suffisait d'un geste, d'un doigt, d'un mot pour la délivrer, c'était très facile, personne ne l'a fait. On pense qu'elle a été vendue, achetée par les Bourguignons, n'est-ce pas ? Et que le roi qu'elle avait fait sacrer à Reims n'a jamais rien fait pour la délivrer. Elle était persuadée qu'elle serait délivrée. Et quand elle a été transférée, elle a eu tout un périple de Compiègne à Rouen. Elle est passée par le nord de la France. Elle était persuadée qu'à chaque étape, elle serait délivrée. Ça ne s'est jamais produit. Quand elle est arrivée aux mains des Anglais, alors ses voix, en prison de manière si dure, ses voix lui ont dit qu'elle serait sauvée. Et elle a été persuadée jusqu'au bout qu'elle serait sauvée. Et elle vivait dans cet espoir et même certitude. Et elle a bien vu qu'elle ne serait pas sauvée. Et c'était un personnage complètement déchiré, ayant finalement échoué, considérant qu'elle avait été abandonnée et échouée. C'est dramatique.
Son âme a été sauvée.
Alors son âme a été sauvée, bien entendu. Et même son destin, même sa figure, même son image, même, et au-delà. Mais elle a symbolisé toute l'énergie de la France dans des situations dramatiques. Elle a d'ailleurs contribué à la formation de l'idée de France, de la nation française. Ça date de Jeanne d'Arc.
Richelieu.
Alors, Richelieu, c'est le grand ministre, grand cardinal, grand ministre, éclatant aussi d'apparence, sa grande soutane rouge, toutes les peintures et toutes les mémoires des contemporains montrent un personnage magnifique. En réalité, Richelieu était petit, il était souffreteux, malade et toujours inquiet, follement inquiet. Très assuré de lui-même, évidemment, avec une volonté effrayante, mais inquiet, dissimulateur, et sa grande inquiétude, c'était dans les désordres de l'époque, c'était de savoir que, à tout moment, quelque intrigue que ce soit pouvait réussir et lui retirer la confiance du roi. Et qu'il y avait des exemples innombrables, pas pour Louis XIII, mais pour les monarques qui l'ont précédé, et surtout les régences. Et il pensait que le roi pouvait à tout moment le faire tomber, et il ne serait plus rien, et il aurait échoué dans sa grande mission, qu'il pensait être une mission à la fois historique et religieuse. Et jusqu'à la fin, il a été terrorisé à cette idée. Et alors, le spectacle des deux hommes vieillissant ensemble, et ils sont morts à quelques mois d'intervalle, Richelieu d'abord. Mais Richelieu était persuadé qu'il mourrait après Louis XIII, et qu'il serait le régent. À la mort de Louis XIII, Louis XIV étant enfant. Mais c'est lui qui est mort le premier. Mais les deux vieillards, se faisant transporter dans des litières, allongés l'un à côté de l'autre, et ne pouvant pas se lever de leur litière, et on était obligé de démolir les portes des murs pour laisser passer la litière traînée par des chevaux.
Alors on poursuit ces comparaisons, Gabriel de Breuil, comparaison avec le maréchal Lyautey, vous parliez de Jeanne d'Arc, Richelieu à l'instant, et puis alors là, contemporain, Valéry Giscard d'Estaing. Là, vraiment, ça mérite quelques explications.
Oui, non, je voudrais pas que ça soit prise en mauvaise part, cette comparaison. Mais à la recherche de personnages ayant eu un grand destin historique, une éclatante réussite, comblée de dons et de réussite, et en même temps insatisfait d'eux-mêmes, pensant qu'ils n'ont pas été complètement compris, ni reconnus, ni encouragés, et qu'ils ont dû faire face à des difficultés et se rétablir dans des situations difficiles, je pense que Valéry Giscard d'Estaing peut être rangé dans cette catégorie de grands personnages qui ne sont pas satisfaits de leur trajectoire et qui révèlent donc, d'une certaine manière, en dehors de la maîtrise intellectuelle, en dehors de la réussite politique et même historique sur le plan, pour l'Europe, c'était une réussite historique, bien sûr, mais qui révèlent en eux-mêmes une certaine fragilité. C'est une fragilité interne qui ne s'explique pas, qui est de caractère, qui est congénitale. Et je pense que sans qu'il n'y a rien de dépréciatif, n'est-ce pas? Mais c'est une espèce de vue parcourant les chevauchant les siècles. Il me semble que l'on peut ranger Valéry Giscard d'Estaing dans cette catégorie.
Alors cette biographie de Lyautey, publiée chez Perrin par Arnaud Tessier, est plus loin que la simple œuvre du maréchal. L'auteur, on le voit à travers vos propos, Monsieur de Broglie, souligne le rayonnement du personnage. Est-ce qu'il ne jouait pas de cette image, finalement, Lyautey, cette image d'un personnage fracturé, dual?
Est-ce qu'il en jouait ou est-ce qu'il ne pouvait pas surmonter cette faiblesse? Il jouait admirablement de la fascination qu'il exerçait sur les autres. Ça, il en jouait très bien. C'était un personnage de théâtre qui a le sens de la posture, qui créera des incidents tout à fait artificiels dans le seul but de se mettre dans une situation triomphante ou de faire un mot. Donc, un personnage de théâtre qui joue souvent, mais beaucoup plus profond que cela, car il joue, mais il exerce le pouvoir et il transforme les choses, la réalité, les hommes et le pays. Il transforme le Maroc. Donc, ça va plus loin que le jeu. Je ne pense pas qu'il joue de son personnage et de sa faiblesse. Je pense que sa faiblesse, il s'en serait bien passé, mais que elle lui est congénitale et que il a beaucoup de mal à la surmonter. Et en réalité, il ne la surmonte pas. Simplement, il ne souhaite pas qu'on la voie. Et ses proches collaborateurs l'ont souvent aperçu dans des situations déprimées quand il est seul. C'est l'exemple de ce collaborateur qui pénètre dans son bureau au Maroc, quand il est en pleine possession du pouvoir, et qui le trouve pleurant. Et qui lui demande « Mais, monsieur le maréchal, vous pleurez ? Imbécile, tu ne vois pas que je m'ennuie ?» Et c'est quelqu'un qui est taraudé par l'ennui. Ça, c'est un signe de la faiblesse, n'est-ce pas, de la fêlure. Comment peut-on s'ennuyer alors qu'on a la carrière la plus remplie et la plus réussie qui soit?
Et combien a-t-il pu s'ennuyer pendant cette guerre à laquelle il n'a pas pu participer en étant ministre,
alors,
la guerre de 14-18?
C'est une autre fracture. Oui, oui. Il n'a pas été combattant, il n'a pas commandé.
Il était à Paris.
Il n'a pas commandé. Il était au Maroc et on l'a fait venir. Pour occuper un poste politique, sans lui dire exactement lequel, et finalement, on lui dit, allez, il faut que vous veniez, vous êtes le prochain ministre de la guerre, et il n'était pas fait pour cela, et il savait qu'il n'était pas fait pour cela, et il savait qu'on se jouait de lui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'être ministre de la guerre dans un pays au beau milieu de la guerre de 14, avec un président de la République, un président du Conseil, un généralissime, des chefs d'armée, et le ministre de la guerre, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, rien. Il est une courroie de transmission. Et il est livré aux commissions parlementaires, à l'opinion, aux groupes de pression, aux critiques, à la presse.
À la bureaucratie.
À la bureaucratie, qui l'énerve souverainement. Et Lyautey était aussi peu fait que possible pour jouer ce rôle. Il l'a joué quelques mois. Il savait qu'il n'y réussirait pas. Il n'avait pas la volonté, d'ailleurs, d'y réussir. Et il a été victime de la première cabale. Il s'est exposé, d'ailleurs. Il a provoqué sa démission. Et ça a été un échec épouvantable pour lui.
Alors, nous n'en dirons pas plus, si vous le voulez bien, Gabriel de Broglie, car il faut laisser nos auditeurs découvrir cette biographie dont vous avez excellemment parlé. Je rappelle le titre, Lyautey, tout simplement. C'est signé Arnaud Tessier aux éditions Perrin, qui vient de recevoir le prix 2004 du nouveau cercle de l'Union que vous présidez. Alors, de quoi s'agit-il, monsieur Gabriel de Broglie, ce nouveau cercle de l'Union?
Alors, c'est le nouveau cercle de l'Union, c'est le plus ancien cercle de Paris. Ce qu'on ne sait pas, mais il a été créé en 1828, à une époque où il n'y avait pas vraiment de cercle à l'anglaise, et il a été créé à l'imitation des cercles qui existaient à Londres déjà à cette époque. Donc plus ancien que le Jockey Club ou que d'autres cercles qui sont les anciens cercles de Paris. À l'époque, c'était le cercle de l'Union. Et c'était un cercle diplomatique, historique et assez élégant, même très élégant, très select, qui avait une réputation très grande. Marcel Proust a rêvé de faire partie du cercle de l'Union. ça ne s'est pas arrangé à l'époque. Il n'a pas trouvé de parrain pour présenter sa candidature. Lyautey en a fait partie. Lyautey était membre du cercle, il était membre du comité, et donc c'était typiquement le personnage qui faisait la parure d'un cercle. Donc c'est un cercle très vivant, qui avait hérité de plusieurs autres cercles qui ont disparu, et qui s'est allié, à une époque récente, à un autre cercle, lui aussi ancien, qui s'appelait le Nouveau Cercle. Et la réunion des deux a donné le Nouveau Cercle de l'Union. Alors, c'est un cercle d'hommes très vivants, qui se renouvelle constamment et qui a ses lieux, ses salons, Faubourg Saint-Honoré, là où est le cercle interallié, c'est un locaux magnifique, dans ce siège magnifique de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et ce cercle décerne chaque année des prix littéraires, dans une cérémonie tout à fait qui a un certain retentissement. Et je dois dire que cette année, nous avons été heureux de couronner un livre original, excellent, très bon, sur ce sujet, et d'un jeune auteur talentueux qui a écrit un excellent livre.
Merci infiniment, monsieur Gabriel de Breuil, de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et donc président de ce nouveau cercle de l'Union. Un autre prix a été d'ailleurs remis, un autre livre concernant madame Proust et Hélène Renard. Nous aurons l'occasion de vous accueillir prochainement sur cette antenne de Canal Académie, la première radio académique francophone au monde. Hélène Renard qui vous accueillera pour parler de cet autre prix. Merci infiniment, à très bientôt.
Merci à vous. Thank you.